Et on commence avec une étude parue dans la revue Science avec la mesure de l'unité de temps la plus courte jamais mesurée en zeptosecondes.
Alors la zeptoseconde, c'est 10 puissance moins 21 secondes. C'est un temps extrêmement court, 1 billionième de milliardième de seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend 1 milliardième de seconde, on est déjà sur ce qu'on appelle une attoseconde. Eh bien la zeptoseconde, c'est encore 1000 fois plus petit. Une équipe de physiciens allemands a mesuré le temps nécessaire aux photons pour passer d'un atome à l'autre. Les chercheurs ont tiré des rayons X sur une molécule de dihydrogène, H2, composée de deux atomes d'hydrogène, et ils ont mesuré leur interaction grâce au Coltrims, un outil à spectroscopie. Résultat, le temps de parcours du photon à travers la molécule est de 247 zeptosecondes. Myriam Zerad est ingénieure de recherche à Aix-Marseille Université. Elle dirige une équipe de recherche au laboratoire d'optique de l'Institut Fresnel.
Cette étude porte sur ce qu'on appelle la photoionisation. Donc la photoionisation, c'est un principe physique qui fait que sur certains matériaux, quand on envoie des photons dessus, le matériau va absorber des photons et ça va générer suffisamment d'énergie dans le matériau pour casser ce qu'on appelle liaison électronique et éjecter des électrons. Donc notre manière de le voir, c'est que quand on va envoyer de la lumière sur un matériau, ça va générer de l'électricité. Et ce sur quoi a travaillé cette équipe allemande, c'est sur les délais de naissance des électrons, en fait. C'est à partir du moment où on a bombardé de photons un matériau, quelle est la durée que mettent les électrons à être éjectés. En fait, ils ont utilisé ce qu'on appelle de l'interférométrie. Donc l'interférométrie, c'est une méthode optique au départ qui est utilisée pour mesurer soit des distances, soit des temps très courts. Ce qui a été fait là, c'est déjà d'utiliser cette même technique, mais sur des électrons et pas sur des photons. Et au lieu de faire parcourir deux trajets différents aux deux électrons, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des photons sur une molécule de dihydrogène et chacun de ces deux atomes a émis des électrons. Une fois que ces électrons ont été émis, ils ont mesuré le délai entre les deux électrons et de l'ordre de la centaine de zeptosecondes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui met en évidence que ce délai de quelques centaines de zeptosecondes, en fait, il correspond à la distance entre les deux atomes d'électrons. Donc c'est la distance parcourue par les photons entre ces deux atomes. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu d'analyse. On était capable de mesurer des différences de marche à l'échelle de la zeptoseconde. Qu'en plus, ils soient capables de relier ça à la distance entre deux atomes d'hydrogène à l'intérieur de la molécule de dihydrogène, c'est techniquement assez joli.
Voilà, si vous voulez vous faire des nœuds au cerveau, vous pouvez penser qu'il y a plus de zeptosecondes en une seconde que de secondes depuis le début de l'univers. Et on passe au bref. La sonde Bepi Colombo a survolé avec succès la planète Vénus.
Oui, la navette de l'ESA et de la JAXA est en route pour Mercure et devrait atteindre son orbite d'ici 2025. Mais d'ici là, la sonde survole Vénus et ses observations vont peut-être servir à confirmer ou à infirmer la présence de phosphine dans son atmosphère. La sonde s'est approchée à environ 10 700 km de la planète. Les instruments fonctionnent bien, ils devraient pouvoir donner des informations sur la température et la densité de l'atmosphère, ainsi que sur sa composition chimique et sur sa couverture nuageuse. Mais les deux agences spatiales appellent à la patience, car le 10 août 2021, Bepi Colombo fera un second survol et passera à seulement 552 km de Vénus. À cette distance, les mesures seront encore plus précises. Patience donc.
Selon une étude parue dans Nature Communications, les îles ne sont pas assez protégées.
Les zones insulaires sont à la fois des zones de forte biodiversité, mais aussi des épicentres d'extinction. En termes de perte d'espèces endémiques, il s'agit des écosystèmes les plus fragiles. Et pourtant, selon cette enquête réalisée par une équipe française, à partir d'une base de données mondiale, pour 2300 îles habitées, la moitié de ces îles ne possède aucune aire protégée. Selon les auteurs, il est urgent de renforcer les efforts de protection de ces zones insulaires.
Et enfin, malgré la crise sanitaire, le CHU de Nantes a supprimé 100 lits.
Et le CHU de Nantes manque de personnel. Les arrêts et les départs en retraite ne sont pas remplacés. En sous-effectif depuis des mois, le personnel soignant ne peut plus exercer correctement et se voit dans l'obligation de supprimer 100 lits. Selon les syndicats, il manquerait environ 1400 postes d'infirmiers, d'aides-soignants ou d'agents de services hospitaliers sur l'ensemble du CHU. Pourtant, la direction a annoncé un bilan financier excellent. L'hôpital a généré un excédent de 3,8 millions d'euros. À la suite de cette annonce, la semaine dernière, le personnel de 14 unités de soins a annoncé une grève illimitée et demande la création d'emplois supplémentaires.
Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences.